C'est quand même fou de se dire que la barre de recherche classique, ce fameux champ de texte tout blanc, un peu rigide et presque intimidant parfois, est en train de devenir un véritable agent commercial.
Ouais, un agent ultra compétent qui, en plus, serait capable de négocier en temps réel.
Exactement. Et c'est justement le sujet de notre décryptage d'aujourd'hui. On s'est plongé dans une énorme pile de documents stratégiques de Google, des trucs internes, des trucs publics.
Et il y avait de quoi faire, hein.
Ah, tu m'étonnes. On a épluché des articles du blog The Keyword, on a analysé une vidéo technique assez pointue de la chaîne YouTube Google Ads, et on a surtout décodé les notes de la très attendue conférence Google Marketing Live 2026, sans oublier la documentation officielle, bien sûr.
Et bon, la mission de cette analyse aujourd'hui, elle est claire. C'est de décoder le lancement d'IMAX pour les campagnes sur le réseau de recherche.
Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une petite mise à jour logicielle.
Ah non, pas du tout.
On assiste littéralement à l'assassinat pur et simple du mot-clé traditionnel pour passer à une ère totalement exploratoire et multimodale.
C'est un changement de paradigme qui est colossal en fait. Parce que pendant plus de 20 ans, l'architecture même de la recherche en ligne, elle reposait sur une logique de correspondance très stricte.
Le fameux mot-clé exact, quoi.
Voilà, quelqu'un tapait une chaîne de caractères, et de l'autre côté, les annonceurs enchérissaient sur cette chaîne précise. C'était un système purement lexical, basé sur les mots exacts.
C'est ça.
Et ce que tous ces documents nous révèlent aujourd'hui, c'est la transition définitive vers un système sémantique. L'algorithme, il ne cherche plus à faire correspondre des mots. Il est conçu pour prédire et modéliser des intentions sous-jacentes.
Alors décortiquons un peu cette mécanique, parce que la documentation, elle met vraiment en avant une fonctionnalité qu'ils appellent la correspondance des termes de recherche, et ça s'appuie sur une technologie qu'ils qualifient de sans mots-clés.
Ouais, le fameux keywordless.
C'est ça. Et jusqu'à présent, je veux dire, toute la stratégie d'un spécialiste en marketing, ça consistait à s'asseoir et à anticiper manuellement toutes les variations possibles d'une requête.
Avec des gros tableaux Excel.
Grave. Et si on oubliait un synonyme ou, je sais pas, une faute de frappe un peu courante, on n'existait tout simplement pas dans les résultats. Mais avec cette technologie sans mots-clés DIMAX, le système s'affranchit totalement de cette liste de départ.
Parce que la limite du ciblage manuel, elle est cognitive en fait.
C'est-à-dire?
L'esprit humain ne peut pas anticiper l'infinie variété des comportements de recherche. C'est impossible. Techniquement, ce que fait l'IA de Google maintenant, c'est qu'elle ingère d'abord les mots-clés historiques de la campagne pour, disons, définir un périmètre initial.
D'accord, donc elle a quand même une base.
Oui, mais elle s'en détache très très vite. L'algorithme va plutôt scruter les éléments créatifs de l'annonce et surtout il va crawler en profondeur tout le contenu des URL du site web de l'annonceur.
Ah, pour comprendre ce qu'il y a sur la page.
Exactement. L'IA extrait le contexte global de l'offre. Elle vectorise ces informations.
Tu peux définir vectoriser là pour qu'on soit bien clair?
Bien sûr, ça veut dire qu'elle transforme les mots et les images en concepts mathématiques, dans un espace multidimensionnel, pour vraiment comprendre ce que l'entreprise vend au fond, indépendamment des mots qu'elle a choisis pour le décrire sur son site.
Ok, je vois. En fait, pour imager la chose, c'est comme passer d'un bibliothécaire très très strict, tu vois, le genre qui refuse de bouger de son bureau si on lui donne pas le titre du livre au mot près.
Ouais, la cote exacte, sinon rien.
Voilà. Et on passe de ça à, disons, un détective privé ou même un personal shopper hyper doué. On peut arriver devant lui en balbutiant, exprimer son besoin de manière hyper floue, ou même employer un jargon qu'il n'a jamais entendu de sa vie.
C'est ça.
Et pourtant, il comprend immédiatement notre intention profonde et, paf, il trouve exactement le produit qui correspond.
C'est une super analogie. L'idée du détective illustre super bien cette idée d'intuition. Mais je dirais qu'elle sous-estime peut-être un peu la dimension d'échelle et d'instantanéité.
Ah oui, parce que c'est à l'échelle du web mondial, là.
Exactement. Ce détective algorithmique, il lit dans des millions de pensées simultanément. Les documents insistent vraiment sur le fait que les requêtes des gens deviennent de plus en plus longues, complexes et complètement inédites.
Ouais, les fameuses requêtes que personne n'a jamais tapées avant.
Voilà. Chaque jour, c'est une proportion massive des recherches sur Google qui est totalement nouvelle. Et l'enjeu de cette expansion de portée avec AI Max, ce n'est pas de ratisser large à l'aveugle, tu vois.
C'est d'aller pêcher ces requêtes inexploitées.
C'est ça. Le système identifie une intention d'achat émergente et il calcule en une fraction de seconde sa pertinence par rapport au contenu d'une page de destination spécifique.
Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, dénicher une intention de recherche inédite, ça ne sert absolument à rien si la personne clique et tombe sur une annonce hyper générique.
Ah bah oui, une annonce rédigée il y a 6 mois et qui ne fait aucun écho à son besoin.
Voilà. C'est là que le système il est forcé de muter. Si l'intelligence artificielle élargit le filet pour attraper de nouvelles intentions, bah l'APA doit s'adapter en temps réel, quoi.
Et c'est exactement le rôle critique des créations dynamiques. C'est le deuxième gros pilier de l'architecture d'AIMAX. La documentation technique décrit un processus, ils appellent ça l'adaptation du texte.
Ok.
Et ça remplace l'ancienne création automatique de composants. En fait, il ne s'agit plus du tout de piocher bêtement dans une liste de titres pré-rédigés par l'annonceur.
Oui, parce que la mécanique derrière ça, elle est redoutable quand on regarde de près. Au moment précis où la personne valide sa recherche, l'IA génère à la volée des titres et des descriptions sur mesure.
En temps réel, oui.
Elle synthétise le contenu de la page de destination, les anciennes annonces qui marchaient bien et surtout l'intention sémantique de la requête actuelle pour forger un message totalement unique. Et ça s'accompagne d'un autre truc, l'extension du URL final.
Oui, ça c'est très puissant.
Carrément. En fait, l'IA court-circuite la page d'accueil ou le lien que l'annonceur avait prévu à la base pour envoyer la personne directement vers la sous-page du site qui a statistiquement le plus de chances de convertir cette intention-là en action.
Et tu vois, l'automatisation de ce message, ça résout le problème de la pertinence immédiate, c'est sûr. Mais les annonces qui ont été faites lors de la conférence Marketing Live 2026, bah, elles vont encore beaucoup plus loin.
Ah, ça c'est clair.
Elles ont introduit ce fameux concept de recherche agentique. Et là, c'est un changement de posture vraiment radical.
C'est la fin de la recherche traditionnelle.
Ouais, la recherche simple, elle laisse place à des conversations itératives, des trucs beaucoup plus longs, qui sont gérés directement par l'intégration du modèle Gemini.
Et franchement, c'est le point de bascule de notre analyse d'aujourd'hui. Le format publicitaire statique, il s'effondre complètement pour devenir un vrai espace interactif. Les notes de la conférence mettent en lumière 3 nouveaux formats exclusifs à AIMAX.
Alors, le premier, ce sont les offres directes.
Voilà. Et là, il ne s'agit pas du tout d'afficher une promo générique de, je sais pas, moins 20% pour tout le monde.
Ah non.
L'IA, elle évalue le score d'intention de l'utilisateur en temps réel et elle intègre des remises ultra personnalisées directement au sein du chat, tu vois. Pile au moment où la probabilité d'achat nécessite un tout petit coup de pouce psychologique.
C'est fou. Et le deuxième format, l'agent commercial pour les prospects, alors là, c'est encore plus disruptif pour le cycle de vente classique.
Carrément, surtout pour le B2B, non ?
Bah ouais. Imagine un parcours d'achat complexe ou la vente d'un service assez cher. Plutôt que de forcer les gens à naviguer sur un site web, à chercher péniblement une page de contact, puis à attendre un email de réponse pendant 3 jours...
L'horreur classique.
C'est ça. Eh bien là, le dialogue s'installe directement dans la page de résultats de Google. La personne pose des questions très pointues dans l'annonce elle-même et l'IA, qui a déjà ingéré toute la base de connaissances du site, bah, elle répond instantanément.
Mais le pire, ou le meilleur, ça dépend comment on voit les choses, c'est qu'elle peut même pré-remplir des formulaires de qualification directement dans cette interface.
Exactement.
Par exemple, si on cherche à faire installer des panneaux solaires, bah, l'annonce demande elle-même la surface du toit, l'orientation de la maison, tout ça sans même aller sur le site.
C'est fluide.
Trop fluide. Et enfin, le troisième format dévoyé, ça s'attaque au commerce de détail avec les annonces shopping enrichies. Là, Gemini génère des descriptions de caractéristiques ultra spécifiques.
Comme un vendeur.
C'est exactement ça. Il agit comme un vrai vendeur en magasin qui met en avant, bim, le détail technique exact qui préoccupe l'acheteur à cet instant très précis.
Et ces trois formats, au fond, ils partagent un objectif commun, c'est de réduire de manière drastique la friction entre... le moment où le désir naît et l'instant où la transaction est finalisée. L'annonce elle-même devient le magasin.
Bon, l'idée d'un magasin autonome, je suis d'accord, c'est fascinant. Mais il y a un grand mais. Il y a un angle mort énorme ici.
Ah, lequel ?
Bah, écoute, si l'IA génère dynamiquement des textes, si elle calcule des réductions à la volée, si elle mène des conversations super complexes avec des clients potentiels, le risque de perte de contrôle pour une marque, il me semble total.
Le fameux problème des hallucinations ?
Mais oui, la littérature sur l'IA, elle en regorge des cas d'hallucination. Qu'est-ce qui empêche cet agent commercial d'inventer des fonctionnalités de dingue ou de promettre des garanties à vie qui n'existent pas du tout ? Ou même juste de s'exprimer avec un ton complètement à côté de la plaque par rapport à l'image de l'entreprise ?
Tu mets le doigt sur la peur de la boîte noire algorithmique. Et c'est clair que c'est le frein numéro 1 à l'adoption de l'automatisation chez les professionnels. Mais les concepteurs d'IAMAX l'ont bien anticipé.
Ah oui, et comment ?
En remplaçant les configurations manuelles complexes par ce que la documentation appelle le brief IA, Et attention, ce n'est pas juste une petite case à cocher, hein. C'est un véritable exercice d'ingénierie de prompt, mais appliqué au marketing.
C'est vrai que le terme « brief IA », ça fait très agence de com. On donne ses directives, mais à une machine.
C'est le principe, oui.
Et concrètement, d'après les notes qu'on a lues, les annonceurs utilisent le langage naturel pour dicter des règles hyper strictes. Ils décrivent l'identité de leur marque, ils définissent leurs audiences cibles avec précision, mais surtout, ils établissent des garde-fous inviolables.
Les fameuses limites.
Voilà. L'annonceur va imposer un cadre à l'IA. Du genre, le ton doit rester professionnel, aucune remise ne doit dépasser, disons, 15%, et surtout, interdiction formelle de faire des allégations médicales ou légales.
En fait, le brief IA, il agit vraiment comme une constitution pour l'algorithme. Il ne peut pas la violer. Mais bon, les professionnels, ils exigent aussi des leviers de contrôle plus granulaires. Et là-dessus, les documents officiels détaillent plusieurs fonctionnalités qui sont exclusives à IMAX.
Ouais, par exemple,
on trouve un ciblage géographique très spécifique qui s'appelle Locations of Interest. Et ça se paramètre au niveau du groupe d'annonces. L'algorithme ne se contente plus de regarder la localisation physique du téléphone de la personne. Il comprend son intention géographique.
Ok, ça c'est malin. Et il y a aussi les contrôles de marque, non? Les contrôles stricts?
Tout à fait.
Ça permet de forcer l'association d'une campagne à des marques spécifiques ou au contraire d'en exclure, histoire de ne pas enchérir bêtement sur le nom de ses concurrents si on pense que ce n'est pas pertinent. Et je trouve que la réponse finale à cette opacité de la boîte noire dont on parlait, elle se trouve dans les nouveaux rapports de paramètres d'URL.
Ah oui, l'outil de transparence par excellence?
C'est ça. Les annonceurs, avec ça, ils ont une visibilité complète sur les termes de recherche finaux, sur les textes exacts qui ont été générés par l'IA et sur les pages de destination qu'elle a choisies. En gros, la boîte noire s'ouvre pour justifier tous ces choix.
Et c'est bien beau d'avoir la théorie de ce contrôle algorithmique, elle est très solide. Mais soyons clairs, ce qui valide réellement ce changement de paradigme pour les entreprises, ce sont les chiffres.
L'argent, toujours l'argent.
Bah, l'adoption d'un tel système n'est justifiée que si la performance financière suit derrière. Et les données globales qui ont été partagées sur le blog The Keyword, elles rapportent une augmentation moyenne de 14% des conversions ou de la valeur globale de conversion.
Et attention, il faut vraiment préciser l'importance de ce chiffre dans le contexte de la pub. Parce qu'augmenter le volume de conversion de 14%, bon, souvent c'est synonyme de balancer de l'argent par les fenêtres avec des dépenses incontrôlées.
Oui, on achète cher la croissance.
Exactement. Mais là, la statistique indique que cette croissance se fait avec un coût par action, le fameux CPA, ou un retour sur les dépenses publicitaires, le ROAS, qui reste similaire.
C'est énorme.
Donc ça veut dire que l'IA trouve des poches de rentabilité qui étaient totalement inexploitées, et ce, sans dégrader la marge de l'entreprise. Mais tu sais quoi? La stat qui m'a le plus marqué, c'est celle qui concerne les annonceurs qui refusaient l'automatisation jusqu'ici.
Ah oui, les réfractaires.
Oui. Pour les campagnes qui restaient bloquées sur l'ancienne méthode, tu sais, en utilisant exclusivement des mots-clés exacts, bah, leur passage à IA Max génère un bond de 27% des conversions.
27%? C'est fou. En fait, ce chiffre, il mesure très exactement l'opportunité manquée par le ciblage manuel. C'est littéralement la taille de l'angle mort lexical dont on parlait au début.
C'est énorme!
Et d'ailleurs, les études de cas dans les documents éclairent super bien la manière dont cette croissance est générée. Le cas de L'Oréal au Chili, par exemple, il est hyper instructif.
Ah oui, cette étude de cas est dingue.
Ils ont carrément doublé leur taux de conversion total, tout en réduisant leur coût par conversion de 31%.
Quand on analyse la requête qui a permis cette performance chez L'Oréal, franchement, c'est la clé absolue pour comprendre AI Max. Les données montrent qu'ils ont débloqué un volume massif de ventes à partir d'une recherche hyper spécifique qui était « Quelle est la meilleure crème pour les taches brunes du visage ?»
Une longue requête, ouais.
Voilà. Avec l'ancien système, pour capter cette vente, il aurait fallu qu'un humain, quelque part dans une agence, pense à enchérir spécifiquement sur cette longue phrase. Alors que dans la vraie vie, la plupart des annonceurs se seraient juste contentés d'enchérir sur « crème visage ».
Un terme qui est ultra concurrentiel et qui coûte une fortune.
Et voilà.
Et la différence fondamentale, elle est là, tu vois. Crème visage, c'est une recherche de produits. Mais quelle est la meilleure crème pour les taches brunes? C'est une recherche de symptômes.
C'est vrai, c'est un problème à résoudre.
Et ce qu'a fait l'intelligence artificielle ici, c'est qu'elle a analysé tout le site de L'Oréal. Elle a compris les propriétés chimiques, dermatologiques des produits. Et elle a fait correspondre directement la solution aux symptômes exprimés dans cette requête inédite.
Et ça, c'est magnifique. Le deuxième exemple qu'on a vu, celui de l'entreprise MyConnect en Australie, il illustre un autre aspect de cette dynamique. MyConnect, c'est une entreprise de services qui aide à connecter l'eau, le gaz et l'électricité lors d'un déménagement.
Oui, un service très pratique.
Et ils utilisaient déjà les stratégies d'enchères intelligentes de Google avant. Ils n'étaient pas à la traîne. Pourtant, l'activation des AI Max a généré chez eux une augmentation de 16% du volume de prospects.
Et le détail crucial là-dedans, c'est l'origine de cette croissance.
Voilà. Un bond de 30% des conversions qui proviennent exclusivement de requêtes net new. Donc des requêtes purement inédites sur lesquelles l'entreprise n'était jamais, jamais apparue auparavant.
Parce que ces requêtes inédites, ben elles représentent la longue traîne infinie du comportement humain, quoi.
C'est ça.
La vie d'un consommateur, elle est remplie de micro-contextes. Et ça, aucun tableau Excel ne peut le modéliser. Ce que la technologie d'AI Max accomplit, c'est tout simplement l'automatisation de la découverte de ces micro-contextes. L'algorithme ne se demande plus quel mot a été tapé, il se demande quel problème cet individu tente-t-il de résoudre à cet instant T.
Et en synthétisant l'ensemble de ces documents, tu vois, des rapports de pairs, fausses annonces de la conférence, bah, la trajectoire, elle devient limpide. L'outil publicitaire n'est plus, enfin, il n'est plus un simple diffuseur de messages à grande échelle.
Non, ça c'est fini.
L'automatisation a complètement dépassé le stade du simple gain de temps pour les équipes marketing. Elle reconfigure la notion même de pertinence. Une simple activation, aujourd'hui, ça déclenche un écosystème où l'IA va identifier une audience invisible au radar humain, rédiger un message chirurgical et orchestrer une interaction commerciale via des agents intégrés.
Elle réduit la distance entre un problème et sa solution à un seul clic. C'est la quintessence de la recherche agentique dont on parlait.
Exactement.
Le système, au final, il agit comme un traducteur universel. Il navigue d'un côté dans l'extrême complexité des nuances du langage naturel et de l'autre dans l'immense inventaire commercial mondial. Et il crée des ponts sémantiques instantanés. L'entonnoir de conversion classique, avec ses longues étapes de considération, ben, il s'aplatisse considérablement.
Ouais, mais tu sais, l'observation de toute cette mécanique, ça soulève inévitablement une interrogation beaucoup plus large sur la nature de nos interactions numériques futures.
C'est-à-dire.
Bah, l'évolution de cette technologie, ça nous éloigne définitivement de notre bon vieux bibliothécaire mécanique pour nous placer face à une intelligence qui est capable d'anticiper la moindre friction dans notre parcours d'achat.
Oui, c'est le but recherché.
Mais si chaque interaction commerciale en ligne se transforme en une conversation hyper personnalisée, générée en une fraction de seconde par un algorithme qui est conçu spécifiquement pour résonner parfaitement avec nos désirs les plus implicites,
Ah, je vois où tu veux en venir.
bah oui, il y a matière à s'interroger sur la frontière entre un choix de consommation véritablement autonome qui vient de nous et le résultat d'une persuasion algorithmique mathématiquement parfaite.
C'est le grand défi éthique de demain. Les implications de ce basculement, que ce soit sur le plan de l'ingénierie ou du comportement humain, bah, elles mériteront vraiment une observation très attentive dans les années à venir.
C'est clair. On gardera un œil là-dessus. Fin de notre plongée et de notre décryptage d'aujourd'hui. À la prochaine.
Salut!